Je vais commencer ce matin en vous posant une question. Hein, c'est pas pour rien que j'ai passé des années à l'Institut biblique, alors on fait des contrôles. Vous êtes prêts? C'est pas difficile. Hein. Je vais parler ce matin d'un personnage qui est dans la Bible. Je dis pas si c'est un homme, si c'est une femme, son histoire est racontée dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament. C'est à vous de deviner la personne, ok? Alors essayez. C'est une personne qui était très reconnue et respectée. Hein, à son époque, même aujourd'hui, on parle de lui. Hein. D'ailleurs, de nos jours, il y a eu un tas de livres écrits sur cette personne. Des films qui étaient tournés, des quantités de films qui étaient tournés, des documentaires ou des films dramatiques qui étaient tournés sur cette personne. Et pourtant, à son époque, voilà, son peuple était un peuple d'immigrés. D'accord? Donc, il n'est pas originaire, enfin, sa famille n'était pas originaire du pays dans lequel il vivait. À la base, il venait d'ailleurs. D'accord? Ça y est, ça commence à venir. Qui c'est? Alors, en plus, son peuple, dans le nouveau pays où ils se sont installés, s'est retrouvé méprisé et même craint. Ensuite, sa famille, c'est une famille sans situation, on peut dire. D'accord? C'était pas des gens riches. Ok? C'était pas non plus des gens qui avaient une bonne position dans la société. C'était des gens très modestes. Alors, parmi nous aujourd'hui, est-ce qu'il y a beaucoup de riches? Est-ce qu'il y en a qui ont les hautes positions dans la société? Bon, je ne vois pas de main levée ici, je ne peux pas voir ce qui se passe derrière. Peut-être que toutes les mains sont levées derrière, hein. Ça se peut. Mais ce n'était pas le cas de la personne à laquelle je pense ce matin. D'accord? Aucune position. D'ailleurs, dans le pays... Alors, le chef du pays, aujourd'hui on dirait un président, d'accord? Le chef du pays dans lequel cette personne a grandi était un homme qui avait beaucoup de pouvoir, mais qui craignait le peuple duquel est issue cette personne. D'accord? À tel point qu'il a décidé, je vais tuer tous les garçons parmi cette population-là. Je ne veux pas que cette population croisse et deviennent une menace pour nous. Vous avez deviné de qui il s'agit? Quelqu'un a une idée?
Moïse,
je pense que derrière, j'entends presque les voix se lever. Oui, c'est effectivement Moïse, de qui il est question ici, mais il faut que je mette aussi le mien en bonne position, sinon je ne vais pas pouvoir suivre avec... ceux qui sont derrière. Voilà. Alors, ce jeune homme qui a grandi, c'était dans un peuple d'esclaves, finalement, au moment où on le rencontre dans l'histoire. Sa tête a été mise à prix. Hein? Normalement, il devait mourir. Si les Égyptiens savaient qu'il y avait un petit garçon chez les Hébreux qui venait à naître, il fallait faire quoi avec? Il fallait le jeter au crocodile dans la mer, ou à la noyade, à la mer Rouge, ou au Nil. Il fallait s'en débarrasser. Mais la question qui me vient à l'esprit en lisant cette histoire dans la Bible, c'est comment se fait-il qu'un jeune homme comme lui, condamné à mort dès la naissance, a-t-il survécu? Et est-il devenu si grand, finalement, que tout le monde le connaisse dans le monde entier? Ça m'étonnerait que vous puissiez voyager dans le monde et trouver des gens qui ne connaissent pas Moïse. Dans toutes les grandes religions du monde, on parle de Moïse. On le reconnaît. Les juifs le reconnaissent, les chrétiens, les islamiques, en fait, tout le monde le connaît. Mais comment ça se fait-il? Il n'avait rien au départ pour nous faire penser, ah oui, c'est normal que lui, il grandirait comme ça. qu'il deviendrait grand. Non, il n'avait rien, strictement rien. Et pourtant, il est devenu. Alors, où est-ce qu'on trouve la réponse à cette question? C'est dans la parole de Dieu. Si vous avez votre Bible avec vous, c'est tant mieux, parce qu'on n'a pas... J'ai préparé, comme notre frère, des versets à mettre sur l'écran. Je n'ai pas... Je ne peux pas les projeter ce matin, mais vous avez vos Bibles. Hein? Sinon, vous avez vos oreilles. Et nous allons lire. Alors, il y a trois passages dans la parole de Dieu qui parlent de lui. Alors, on va lire les trois. OK? Pour commencer, Exode chapitre 2, versets 1 à 10. J'ai oublié de demander à Lala au départ à quelle heure je devais m'arrêter.
Vous êtes libre.
Je suis libre. Si je suis comme l'apôtre Paul, ça signifie que je peux aller jusqu'à minuit et au-delà.
C'est ça.
Mais je pense qu'on aimerait bien rentrer pour midi en tout cas. Alors, c'est la parole de Dieu hein, qui va nous instruire, qui va nous montrer comment ce petit Moïse... D'ailleurs, vous savez, nous ne connaissons pas du tout le prénom que ses propres parents lui ont donné. On ne connaît pas. C'était la princesse égyptienne qui lui a nommé Moïse. Bon, Exode 2, chapitre 2, verset 1 à 10. Je vais lire à haute voix. Vous pouvez suivre dans vos Bibles ou ceux qui sont dans l'autre salle peuvent suivre sur l'écran. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, peut-être y crier, on ne sait pas, hein? Mais en tout cas, ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc. Qu'elle a du jonc, c'est un petit peu comme le bambou. C'est les roseaux qui poussent dans l'eau. Elle a sans doute coupé un certain nombre de... Elle a confectionné une espèce de petite caisse. Qu'elle a enduit de bitume et de poix, elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux. Sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. Un homme de la... Et là, la fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner. Et ses compagnes se promenaient le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié. Et elle dit, « C'est un enfant des Hébreux. » Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant ?»« Va, » lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. Je ne sais pas si je reste sur la bonne page derrière, là. Frère, on est sur quelle page là? Parce que j'ai l'impression que ça ne bouge plus. On doit être sur Exode chapitre 2 toujours. J'ai l'impression que le clic-clic là ne marche pas très bien. Exode 2, 1 à 10. Je te dirai quand il faut. C'est vraiment l'improvisation ce matin. Hein? Alors, elle demande donc à la fille de Pharaon si elle devait chercher une femme pour allaiter cet enfant. Et la fille de Pharaon lui dit, « Emporte cet enfant et allaite-le-moi. Je te donnerai ton salaire. » La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, on ne sait pas ce qui était considéré grand à l'époque, pour allaiter un enfant, il faut savoir qu'à l'époque, souvent, on allaitait plus longtemps que de nos jours. Il se peut qu'il avait 4, 5, 6, jusqu'à 8 ans même. Un peu exceptionnel pour nous. Mais en tout cas, il avait grandi. Et il fut pour elle... Alors, quand ça s'est passé, elle amena la fille à la fille du Pharaon. Et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Et d'ailleurs, c'est la signification de son nom. Voilà le premier texte. Maintenant, on va passer au deuxième texte. C'est dans Actes chapitre 7, versets 20 à 22. Je donne un peu de temps pour ceux qui sont dans la première salle ici de le chercher parce qu'ils n'ont rien sur l'écran. Actes chapitre 7, versets 20 à 22, c'est beaucoup moins long. Alors, juste pour que vous puissiez le situer, on est dans l'histoire d'Étienne, le premier martyr de l'Église. À un moment donné, il est accusé faussement et il doit se défendre devant ses juges. Et là, il raconte l'histoire d'Israël et il vient justement dans son récit sur le cas de Moïse. Alors, chapitre 7, verset 20, nous lisons « À cette époque, dit Étienne, naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père, et quand il eut été exposé, la fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme son fils. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, et il était puissant en parole et en œuvre. » Donc on le voit grandir, là, ici, dans le palais, n'est-ce pas? Le dernier texte est dans Hébreu, et on peut passer derrière, là, au dernier texte dans Hébreu 11, 23. Ce texte-ci est écrit davantage du point de vue des parents. Enfin, ça met le projecteur sur les parents, non pas sur Moïse. Hébreu chapitre 11, verset 23. Où nous lisons, car c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'il ne craignait pas l'ordre du roi. Voilà les 3 textes, Exode, Actes et Hébreu. Les 3 textes principaux hein, dans la Bible qui parlent de lui dans cette période de son enfance. Et alors, est-ce que vous avez pu remarquer, on peut passer à l'autre image derrière, est-ce que vous pouvez me dire maintenant la question qu'on s'est posée hein, au départ, c'était comment un homme enfant, ou peut-être vraiment défavorisé à Max au départ, est-il arrivé à la grandeur en fin de compte? Vous avez trouvé le secret? Ah, j'aimerais en proposer un, hein. On peut faire encore un clic là, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui est en train de tirer les manettes dans sa vie, de diriger toutes les circonstances de la vie de cet homme. Et on peut encore faire un autre clic là derrière. Dieu préparait Moïse depuis sa naissance pour le rôle qu'il allait avoir dans son plan en lui donnant les qualités et expériences nécessaires. D'accord? Dieu va faire en sorte que ce petit gamin, hein, tout était contre lui au départ, qui reçoit tout ce qui lui était nécessaire en qualité personnelle et en expérience de vie pour lui permettre d'arriver à la grandeur qu'il devait avoir à la fin. Et c'est ce que je veux voir avec vous. Donc ce matin, on peut passer très rapidement Moïse, l'enfant favorisé. Et on va aller à la suivante. Quelles sont donc les qualités que Moïse, qu'on remarque chez Moïse? Bon, dans les 3 textes, c'est intéressant. Je vais parler d'une seule qualité parce qu'en lisant les 3 textes, Exode, Actes, Hébreu, la même qualité revient à chaque fois. Je relis Exode chapitre 2, verset 1 à 2, il est dit qu'il était beau. C'est ce qui a été dit. Dans Actes chapitre 7, c'est relevé par Étienne. Et là, il a dit à cette époque, naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. D'accord? Hébreux chapitre 11, verset 23 aussi a dit, l'enfant était beau. Est-ce qu'il y a des parents parmi nous? Allez, levez la main, les parents. Merci. Est-ce qu'il y en a qui espèrent un jour être parents? Oui, il y en a, vous pouvez lever la main aussi, il n'y a aucun autre là. C'est une ambition qui est tout à fait louable, hein, d'être un parent. Mais je ne connais pas de parents qui, en voyant le nouveau-né dans les tenants, surtout les mamans, hein, en les tenant dans les bras, nous disent « Oh, qu'il est beau !» Oui. Mais là, il est dit qu'il n'était pas seulement beau aux yeux de ses parents, mais qu'il était beau aux yeux de l'Éternel. Alors ça me fait penser, alors qu'est-ce que Dieu voyait dans ce petit gamin? Il vient de naître. Quand il va être mis dans la petite caisse, il aura à peine 3 mois. Il est vraiment tout petit. Qu'est-ce que Dieu a su remarquer dans ce gamin? Eh bien, le mot « beau » est un mot qui signifie à l'origine « de la ville ». Intéressant. De cela, on a le mot qui vient en français « quelqu'un qui est poli ». Alors, pour ceux qui viennent du Dom-Tom, ils viennent en France « métro politain ». Poli, c'est un mot qui signifie la ville, le police. Pas la police avec un C, hein, P-O-L-I-S. La ville signifie. De cela, le mot dans son évolution est venu à dire quelqu'un qui sait se tenir en public. Quelqu'un qui sait interagir avec les gens autour de lui. Il est à l'aise en société. Il est poli, comme nous dirions aujourd'hui. Il sait respecter les autres. Hein? Il sait bien se tenir en public. Le mot pouvait dire aussi avoir une certaine élégance. Hein? Avoir une certaine élégance. Être même attractif physiquement. Alors je pense que à 3 mois, voire moins, on n'a pu voir que ça. On n'a pas pu voir encore comment ce petit bébé allait se comporter en société. Il était trop petit encore. Mais Dieu connaît la fin comme il connaît le début. Hein? Il sait toutes choses. Et quand il a regardé cet enfant, il a dit, alors là, ça c'est un bel enfant. Là, il est beau. Et c'est la seule qualité que nous remarquons dans la parole de Dieu à son sujet. Mais il y a un autre enfant auquel la même chose a été dit. Dans Luc chapitre 2, verset 52, et il est dit tout de suite qui c'est, hein? Mais vous pouvez deviner, Luc, au début de cet évangile, on parle de qui? Ben, de Jésus-Christ. Et d'ailleurs, le verset 52 dit « Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. » Il savait se tenir en public, mais il se trouvait beau devant Dieu. Il était beau devant Dieu, il était aussi appelé par son fils au moment où il va entrer dans sa vie publique, au moment de son baptême. On va entendre la voix de Dieu résonner au-dessus des eaux du Jourdain. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Moïse, Jésus-Christ. D'ailleurs, je vous encourage à chercher les parallèles entre les deux. Ce serait une belle étude pour vous. Vous allez être vraiment émerveillés de voir de quelle mesure l'un est une image de l'autre. Imparfait, oui. Moïse n'a pas la perfection de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, fait chair. Mais il y a beaucoup de similitudes. Maintenant, en France, vous savez, en France, on dit que tous naissent égaux devant la loi. Oui, devant la loi, il faut bien le préciser. Hein. Devant la loi, ça veut dire que qu'on soit des enfants qui naissent dans les quartiers pauvres ou des quartiers riches, que les parents ont une bonne situation en société, ou moins bonne, ou peu importe, on a les mêmes droits en France. Là, c'est sur le papier. Hein. Il arrive que quelquefois, dans la vie, comme ça arrive toujours, que nous, les hommes, nous avons du mal à mettre en pratique tout le bien que nous pouvons imaginer et même écrire dans nos lois. Mais c'est vrai. On est censé naître en France avec les mêmes droits que nos frères, nos sœurs, nos parents, nos voisins, enfin tout le monde. On naît égaux devant la loi. Mais il est bien évident qu'on ne naît pas tous avec la même beauté physique. Hein? Je ne vais pas demander s'il y a des filles ici qui aimeraient être Miss France. Je vous laisse dans vos fantasme là. Non, mais c'est pas donné à tout le monde, d'accord?
Je ne serai pas Monsieur Univers non plus. Hein? Je ne suis pas Arnold Schwarzenegger dans sa jeunesse. Non. Ce n'est pas donné à tout le monde. On n'a pas tous la même beauté, la même force, la même intelligence, vivacité d'esprit, même intérêt pour les choses spirituelles. Est-ce que vous avez remarqué que quelquefois, des enfants sont comme des éponges. Ils ne demandent que d'apprendre des choses sur Dieu. Et ils cherchent bien dans la Bible. Pas tous, mais il y en a. Et ça se remarque, on dit, mais mince alors. Qu'est-ce que ce gamin-là va devenir un jour? Ou gamine, hein? Ça peut être une fille comme un garçon. Ah, ça c'est quelqu'un qui veut marcher avec le Seigneur. C'est formidable. Mais bon, Dieu peut travailler dans le cœur de chacun. Hein? On a tous nos capacités, on a tous été dotés par Dieu de qualités différentes. Ce jeune-là, Moïse, Dieu l'a accordé de cette qualité-là d'être beau aux yeux de Dieu. Et quand Dieu nous donne quelque chose que nous ne méritons pas, parce que comme lui, hein, à son âge, qu'est-ce qu'il a pu faire pour mériter quoi que ce soit? C'est un bébé. Mais quand Dieu nous donne quelque chose que nous ne méritons pas, on appelle ça quoi? La grâce. Ça, c'est la grâce de Dieu. Et il nous fait grâce. Et mes amis, il vous a fait grâce parce que la Bible dit, alors je ne sais pas lesquels, Dieu il est riche. Il peut donner à quelques-uns telle grâce, à d'autres grâces, mais Dieu vous a fait grâce d'une manière ou d'une autre, parce que la Bible dit qu'il fait même pleuvoir sur les justes et les injustes pareil. Et on est content, nous, aujourd'hui, de dire que de temps en temps, il laisse briller aussi le soleil. Hein? Alors, je viens d'une région en France où souvent on a moins de soleil que vous avez ici en Gironde. Mais on est content. Dieu nous fait grâce et on dit merci. Alors, ça c'est déjà des qualités, ou au moins une qualité qui fait penser à plein de choses dans la vie de ce jeune homme qu'il avait parce que Dieu le lui avait donné. Il lui avait donné cette beauté et Dieu l'a reconnue en lui. Mais quelles expériences maintenant? Quelles expériences spéciales Dieu lui a-t-il accordées? Parce que vous savez, il y a des gens qui grandissent dans d'excellentes circonstances, hein, dans de bonnes conditions, et qui gaspillent tout. C'est pas vrai? Et parfois, il y a des gens qui naissent dans la pauvreté, sans rien de particulier, hein, pour favoriser leur avancement dans la vie, et pourtant ils avancent. Et vous avez certainement connu, peut-être vous êtes un de ceux-là aussi, et vous avez su, par la grâce de Dieu, prendre des petites choses et les faire fructifier et grandir. Formidable. Quelles étaient les expériences que Moïse il a eues? Alors, premièrement, Dieu lui a donné des parents croyants. Alors, tout le monde n'a pas forcément des parents croyants. Alors, ceux qui ont levé ou celles qui ont levé tout à l'heure la main pour dire « Un jour, j'aimerais avoir des enfants ». Alors, vous serez déjà en bénédiction à vos enfants si vous êtes une personne de foi en Dieu, si vous êtes croyant. Ça va les aider beaucoup. Je lis dans Hébreux, chapitre 11, verset 23, « C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents. » Parce qu'ils virent que l'enfant était beau et ils ne craignaient pas l'ordre du roi. Je vois dans ce verset l'œuvre de leur foi. Vous savez, des fois aujourd'hui, on entend dire « Je suis croyant, mais je ne suis pas pratiquant. » Bibliquement, c'est un non-sens. D'ailleurs, vous pratiquez, si vous le reconnaissez ou pas, vous pratiquez votre foi. Alors, je ne sais pas à quoi vous croyez, ou en quoi vous croyez, mais si je vous suivais, si vous me suivez aussi, vous verrez en quoi je crois. Parce que tôt ou tard, je vais agir selon mes convictions. Et vous de même. Et alors, quelle était l'œuvre de leur foi, les parents? Ben, ils ont caché, la première chose, ils ont caché leur enfant. Et encore, ce n'est pas parce qu'ils avaient honte de lui. C'est parce que cet enfant avait un prix sur sa tête et il devait mourir. Alors, ils l'ont caché de tous les Égyptiens qui pouvaient rôder par là, cherchant un enfant à jeter dans l'eau. Alors, ils se sont sûrement dit, si Dieu nous a donné, dans ces temps-ci, un enfant, ce n'est pas pour le faire tuer par la suite. Alors, nous avons au moins la conviction que Dieu nous donne cet enfant, nous allons agir en conséquence et nous allons le cacher. Vous avez foi en Dieu. Et la deuxième chose me surprend, c'est le fruit de leur foi. L'œuvre de leur foi, eh bien, ils ont caché l'enfant. Quel en était le résultat? Le verset le dit. Ils ne craignent pas l'ordre du roi. Vous voyez? Alors là, je trouve, mes amis, je vais le répéter peut-être deux ou trois fois avant la fin. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ils n'ont pas craint cet ordre du roi qui a dit à tous ces sujets, vous voyez un petit garçon hébreu qui naît, vous êtes obligé de le jeter dans l'eau. Vous n'avez pas peur de ça? Alors, ce qui me surprend dans l'histoire-là, je vais vous aider à le trouver. Qui avait peur dans l'histoire? Bon, c'était pas les parents. Est-ce que c'était Moïse qui avait peur? Trop petit. La vie vient comme ça vient pour un tout petit comme ça. Ben, c'est pas lui qui a peur. Mais il y a quelqu'un dans l'histoire qui a peur. Le pharaon. N'est-ce pas ironique? Voilà cet enfant et les parents qui n'ont rien, ils n'ont aucun droit, ils sont des esclaves. L'ordre du roi peut mettre fin comme ça à la vie de quiconque. Ils n'ont rien. Et pourtant, ils sont tranquilles d'esprit. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'il y a un Dieu qui est au-dessus du pharaon. Vous voyez? Alors que le pharaon, qui a tous les pouvoirs, qui a toutes les richesses du monde, tout à sa disposition, c'est lui qui craint. Pourquoi? Il ne connaît pas Dieu. Il ne sait pas se conduire selon l'Éternel. Alors, mes amis, lequel est-ce que vous voudriez être? Vous préférez être celui qui devient riche, et vous avez beaucoup de choses dans la vie, bonne situation et tout le reste, mais sans Dieu? Ou est-ce que vous préférez avoir dans la vie ce que Dieu vous donne? Vous contentez de cela, sachant que Dieu est en contrôle de tout. Vous avez une préférence là? Moi j'en ai. Oui. La Bible dit que le contentement avec la piété est une source de gain. Vous allez arriver là bientôt parce que vous avez lu dans Timothée, ça c'est dans 2 Timothée je crois, ou excusez-moi, c'est dans 1 Timothée chapitre 6, j'oublie le verset mais vous pouvez le chercher, 1 Timothée chapitre 6, le contentement avec la piété est une grande source de gain dans notre vie. Alors ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur. Alors là, c'est la première chose que Dieu lui a donnée. La deuxième chose, c'est les parents croyants. Deuxième chose, il a permis l'intervention de la fille du pharaon. Elle a agi là. Alors, vous connaissez l'histoire, hein? Je vais faire une petite liste de choses. Et vous demandez à la fin, est-ce que vous croyez que tout ce qu'elle a fait, c'est simplement par hasard? Sur le coup d'une émotion? Premièrement, elle prend son bain ce jour-là. Elle aurait pu dire, ben, j'ai déjà pris mon bain pour la semaine. Hein? Peut-être elle en prenait tous les jours, je n'en sais rien. Mais ce jour-là, quand les parents avaient mis la caisse dans les roseaux, c'est le jour où elle descend à l'eau pour prendre son bain. Et exactement aussi à l'endroit où il y avait pris dans les roseaux la petite caisse. Le jour même et à l'endroit même. Deuxièmement, elle remarque la caisse prise dans les roseaux. Je vous rappelle que la caisse est faite de quoi?
de jonques, c'est-à-dire de ces roseaux, ça a dû se confondre un petit peu. Comment est-ce qu'on a pu la remarquer, cette caisse? Mais elle a vu. Ses copines étaient allées se promener un peu sur la berge, elle était restée seule avec une ou deux servantes, et puis elle a remarqué la caisse. Un hasard? Bon. Elle fait chercher la caisse. Alors, en pensant à ça, je me suis demandé, alors est-ce que cette caisse avait quelque chose d'impressionnant? Est-ce que vous pensez que c'était tout décoré avec des joyaux, avec des fils d'argent et d'or, etc., qui l'a fait étinceler? Non, 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 c'était une pauvre petite caisse couverte de poils de bitume pour la rendre imperméable. D'ailleurs, ça devait avoir un peu un aspect sale, je suppose. Et pourtant, elle a remarqué et ça l'a intriguée. Et elle a fait chercher justement cette caisse. Et puis, elle reconnaît que le bébé est un Hébreu. C'est elle qui le dit. Ça, c'est un enfant des Hébreux, elle dit. Probablement parce qu'il était circoncis. Peut-être parce qu'il portait des vêtements en tissu qui n'étaient manifestement pas ce qu'on mettait sur un enfant égyptien, je ne sais pas, mais elle a reconnu, et elle le dit, elle le reconnaît. Qu'est-ce qu'elle aurait dû faire avec alors? Ah, vous le savez. Et pourtant, elle le fait allaiter, c'est la sœur, hein, Myriam qui est là, qui vient à cet instant-là, pour proposer qu'elle cherche pour la princesse une nourrice pour le bébé. Si elle accepte, ça signifie qu'elle ne va pas le tuer. Moment de décision. Qu'est-ce qu'elle décide? Oui, va chercher. Et forcément, je pense que la princesse, elle était au courant. Hein? Enfin, elle a pu deviner. Cette fille n'est pas là par hasard. Et puis, la personne qu'elle va chercher pour allaiter, la nourrice, serait la maman. Mais tout ça, elle accepte. Elle accepte, oui, vas-y. Et puis elle décide d'élever finalement. Elle a même décidé de payer. Alors si je demandais ici pour ceux qui sont déjà mamans, qui ont allaité les enfants, et bien plus, hein, changer des couches, enfin, peut-être vous lever la nuit quelquefois quand l'enfant était malade. Tout ce que vous avez fait pour votre enfant, vous n'avez jamais été payé pour ça. Maintenant vous dites, c'est normal, c'est mon enfant. Et je ne demandais pas d'être payé pour ça. Et vous n'avez pas été. Sauf que c'est une grande richesse que vous recevez d'avoir votre enfant et de lui donner tous ses soins. Mais elle a élevé cet enfant comme si c'était le sien. C'est absolument incroyable. Alors, tout cela a été du hasard. On peut faire encore un clic derrière, peut-être même deux clics. Est-ce que c'était un hasard? Je vous ai posé cette question. Ça fait beaucoup de hasard, hein? Ça fait beaucoup de circonstanciel. Au bout d'un certain moment, on dit non, ce n'est plus de simples circonstances, de chance, du hasard. Non, c'est que Dieu est à l'œuvre. Pourquoi? Parce qu'en faisant le choix qu'elle a fait, elle a fait un choix qui n'est pas indiqué dans le texte, mais vous le comprendrez très bien. Elle a décidé de favoriser Moïse, qui ne porte pas de nom encore, ce bébé-là. Elle le préfère à son père. Parce qu'à un moment donné, elle doit décider, est-ce que je suis l'ordre... C'est son père quand même, le pharaon. Est-ce que je fais ce que mon père a dit, ou est-ce que je garde l'enfant? Et elle a fait son choix. Incroyable, hein? Incroyable. Qu'est-ce qu'elle pouvait attendre de son papa? Sa colère. Hein? Quand il apprend qu'elle a adopté un enfant hébreu, elle est élevée comme le sien, alors que lui, il avait demandé le contraire. La colère, et on voit ce que la colère avait déjà proposé. J'ai regardé récemment un film, un documentaire
sur l'histoire de l'Exode. D'accord ? On n'est pas encore là, on est à quelques, on va dire 80 ans de l'Exode encore. Mais disons qu'à cette époque, les archéologues ont découvert dans la ville de Avaris, dans le delta, là où était Gozen, hein, où étaient installés les Juifs. Avaris, c'était le nom de la grande ville. Ils ont découvert que c'était habité principalement par un peuple sémite, non pas d'Égyptiens. Après, apparemment, toute cette population est partie. La ville est tombée en ruine et on a reconstruit dessus une ville qui s'appelle Ramsès. Un autre pharaon plus tard. Et dans la ville d'Avaris, ils ont trouvé beaucoup de tombes. C'est normal, hein, dans une grande ville, vous trouvez toujours des cimetières. D'ailleurs, j'étais intrigué par le fait que là, sa famille habite juste derrière une cimetière. On trouve toujours les cimetières parce que on est dans une ville, on grandit, et éventuellement on va mourir, et il faut enterrer quelque part. Mais chose curieuse, est le fait que dans la ville d'Avaris, à cette époque-là, normalement on devait découvrir à peu près 25% des tombes qui devaient être des tombes d'enfants. Parce qu'il y a toujours un certain nombre d'enfants qui meurent aussi, hein, pas seulement des grands. Et ça variait un peu, mais en règle générale, on pouvait attendre à ce que 25% des tombes dans la ville d'Avaris soient des tombes d'enfants. Curieusement, c'est le double. Il y a beaucoup d'enfants. Alors, si c'est un enfant, normalement, on ne peut pas, lorsque une personne grandit, si on n'a que la squelette, et c'est ce qu'il trouve hein, aujourd'hui dans ces tombes-là, on peut deviner, est-ce que c'est une femme, est-ce que c'est un homme. Pour les petits bébés, là, ils ne peuvent pas tellement savoir. Mais ils ont découvert que, déjà, il y a beaucoup de tombes d'enfants à Avaris. Deuxièmement, quand on regarde le nombre de tombes, et est-ce que c'est des femmes ou des hommes qui sont enterrés là, qu'est-ce qu'on découvre? Il y a plus de femmes que d'hommes. Où sont partis les hommes? Ils sont partis à la naissance. Il y avait surtout les femmes, les filles, les petites filles qu'on gardait en vie. Pour une fois, hein, les filles avaient l'avantage. mais les garçons étaient jetés dans le Nil. C'était pas un hasard que dans des circonstances pareilles, la fille même du pharaon a fait un choix. Et ça, c'est un avantage que Dieu a donné à ce garçon. Une expérience incroyable. Et puis, il lui a donné également une éducation. Nous lisons dans Actes chapitre 7, verset 22, dans le témoignage de Étienne, que Moïse était instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, et il était puissant en parole et en œuvre. Et qui a financé ça? Le pharaon, à travers sa fille. Les parents n'auraient jamais pu demander mieux, hein? Je suppose qu'à son époque, il n'y avait aucun de ses copains, s'il y en avait, hein, qui connaissait, chez les Hébreux, qui étaient restés en vie, qui avaient bénéficié d'une éducation du tout. Alors que lui, il avait le meilleur que le monde avait à offrir. Il faut que je me dépêche. Ça me fait penser à ce verset un peu plus tôt dans l'histoire de Moïse, dans Exode chapitre 1, verset 10, où le roi lui-même a dit à ses conseillers autour de lui, lui qui a peur des Juifs, il a dit quoi? Montrons-nous habiles. On va leur montrer que nous savons s'occuper d'eux pour être sûr qu'eux ils ne se soulèvent pas contre nous un jour. Est-ce qu'il va réussir? Dans un certain sens, oui. Mais le jour allait venir qu'il va découvrir qu'il y a plus fort que lui. dans le sens d'habilité. Et je lis dans Job chapitre 5 verset 13 ceci par rapport à Dieu, qu'il prend les sages dans leur propre ruse. Et les desseins des hommes artificieux sont renversés. Voyez, c'est ce qu'il a fait pour Moïse. C'est absolument formidable. Et je lis aussi sur le cliché suivant, que dans Romains chapitre 11, verset 36, « Car de lui, et par lui, et pour lui sont toutes choses. » C'est Dieu qui contrôle. Moïse était-il conscient de la main de Dieu dans sa vie? Probablement pas. Ou en tout cas pas dans la mesure que c'était une réalité pour lui. Alors le verset continue en disant « Qu'à lui soit la gloire éternellement. Amen. » Si vous êtes là aujourd'hui, physiquement présent, tel que vous êtes, avec votre condition de vie bien particulière, eh bien c'est parce que la main de Dieu est sur vous. D'accord ? À lui soit la gloire éternellement. Je lis aussi dans Jérémie chapitre 10, verset 23, le prophète il a dit « Je sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. » Ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. Oh, le pharaon pensait qu'il était le plus puissant du monde. Et s'il y avait quelqu'un qui pouvait lui dire « J'ai ma main sur la barre, je conduis ma barque où je veux », c'était lui. Et pourtant, c'est Dieu qui contrôlait toutes choses. Et dans Romains chapitre 8, verset 28, vous connaissez ce verset, n'est-ce pas ? « Toutes choses concourent au bien » pour ceux qui aiment Dieu, pour ceux qui sont appelés selon son dessein. Et voilà un petit gamin. Il est appelé par Dieu dès sa naissance. Et Dieu est en train de conduire selon son dessein. Peu importe ce que veut le pharaon. Alors donc, comme je vous ai dit, je vous ai posé la question au début. Comment ça se fait-il que ce jeune homme, ce petit gamin, hein, ce bébé, quand il naît, il devait mourir. Et pourtant, il a survécu. Pas seulement ça, il a grandi. Et il est arrivé à une grandeur que peu de monde depuis a connue. Comment ça se fait, Dieu ? Il lui a donné des qualités spirituelles exceptionnelles. Car Moïse devait confronter un jour le pharaon et diriger une nation entière. Ça, c'est pas donné à tout le monde non plus. Il lui a donné des parents croyants car Moïse allait avoir besoin de beaucoup de foi pour délivrer son peuple d'Égypte. D'ailleurs, vous savez que le jour où, et on parlera de cela un de ces dimanches, le jour où Dieu s'est présenté à lui devant dans cette buisson ardent, n'est-ce pas ? Est-ce que Moïse était prêt à partir ? Oui, je suis prêt, Seigneur, à demander à Pharaon, laissez partir mon peuple. Non, il n'était pas prêt. Il fallait beaucoup de foi. Dieu allait lui donner cette foi-là. Et puis, Dieu a permis qu'il entre dans le palais par cette princesse égyptienne. Parce qu'un jour, Moïse allait devoir revenir rencontrer le pharaon, pas dans les taudis des esclaves, mais dans son palais. Et là, il était le seul, probablement le seul juif qui pouvait le faire et être en terrain connu. Être à, ah oui, je me souviens, j'ai grandi là, j'ai joué là-bas. Il connaissait parfaitement le palais. Ça devait le mettre à l'aise. Et puis le Seigneur lui a donné cette éducation vraiment poussée afin qu'il devienne le chef de son peuple. Chef pour spirituel. Chef dans le sens de donner la direction à suivre à travers le désert, etc. Quelques applications pour terminer. Parce que la Bible nous a été écrite non pas seulement pour nous raconter de belles histoires, et c'est une belle histoire, hein, mais aussi pour notre sanctification. Alors, application personnelle. Premièrement, je me dis, je veux vous encourager aussi à laisser votre foi en Dieu vous dirige dans tout ce que vous faites. D'accord? Alors, si vous dites, je n'ai pas spécialement de foi en Dieu encore, eh bien, vous, c'est un choix à faire. De dire, dans votre cœur, je vois combien c'est un grand Dieu, qu'il n'y a rien ni personne qui s'oppose à sa volonté. Alors, je vais le suivre dans ma... C'est un choix. Vous pouvez essayer d'aller contre. Vous vous souvenez de Saul de Tarse? Il est sur la route de Damas pour chercher des chrétiens, pour les mettre à mort. Et il a rencontré son Seigneur. Il a rencontré son Seigneur. Et la première chose qu'il lui a dit, il dit, que veux-tu, Seigneur, que je fasse? Et le Seigneur lui a dit, il te sera dur de regimber contre les aiguillons. Il parle de genre de pic qu'utilisent les agriculteurs hein, pour diriger le bœuf. Et Dieu avait cherché à diriger l'apôtre Paul. Il voulait rien entendre, il a cherché à faire sa guise. Il a dit, tu continues sur ce chemin-là, Saul, tu vas voir ce qui est dur. Tu essaies de faire la vie dure aux autres, je vais te faire connaître la dureté de la vie. Alors c'est un choix que nous avons à faire. Vous pouvez choisir aujourd'hui même. À partir d'aujourd'hui, je donne ma vie à ce Dieu-là, qui est grand, qui est majestueux, comme on a entendu, qui est aimant. Et vous pouvez faire confiance à Dieu, même pour vos enfants. Vous voyez? Dieu, il est super pratique. C'était par rapport à comment élever cet enfant, mais je pense à Marie et Joseph. Je pense aux parents de... Samson, ça c'est une belle histoire aussi. Mais quand ils ont appris qu'ils allaient enfin avoir un enfant et que cet enfant devait faire des exploits en Israël, mais alors comment devons-nous faire pour élever cet enfant-là?